un podcast France Culture.
Dans Le Péril Jeune, le film de Cédric Lapiche, Thomasy, joué par Romain Duris, ne cesse de demander à ses amis qui révisent le bac de faire une partie de flipper. Nous sommes en 1976, c'est l'âge d'or des jukebox, babyfoot et jeux d'arcade. Pendant plus de 30 ans, ces machines à pièces attirent dans les cafés une jeunesse venue refaire le monde et dépenser son argent de poche. Une classe d'âge qui devient, pendant les 30 Glorieuses, une classe de consommation à part entière. Nous allons passer l'heure qui vient dans les cafés et les salles d'arcade en compagnie de Nicolas Galifi, commissaire de l'exposition Insert Coin, Flipper, Borne d'arcade et jeux à pièces qui se tient du 1er mars au 30 juin à la Monnaie de Paris en partenariat avec France Culture. Également avec nous Jean-Jacques Ivorel, historien, enseignant-chercheur émérite à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, directeur de la revue Histoire de l'enfance irrégulière. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancey, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender.
Vous jouez à la machine à sous ?
De temps en temps aussi.
De temps en temps, oui. Ça coûte cher, vous perdez beaucoup d'argent dans la machine à sous ?
Oh, peut-être 100 francs par semaine.
Ah, au Flippers, j'ai joué pendant à peu près un mois. Puis après, j'ai vu que l'argent filait trop vite, alors j'ai essayé de me tasser. Et puis finalement, maintenant, je ne joue plus.
Vous ne jouez jamais aux machines à sous ?
Ah non, ça jamais. Je suis même absolument contre ce genre d'engin. Ça pervertit la jeunesse.
Ça pervertit la jeunesse. Bonjour Nicolas Galifi et Jean-Jacques Ivorel.
Bonjour Tiffaine.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors après avoir consacré une exposition à l'argent dans l'art, la Monnaie de Paris se penche sur les machines de jeux à pièces. Pourquoi s'intéresser aux flippers, babyfoot et jukebox si emblématiques des 30 Glorieuses, Nicolas Galifi ?
En fait, le projet est assez simple. On a contacté la Monnaie de Paris en leur proposant justement de mettre en avant leur activité principale, qui est donc d'émettre de la monnaie, et des machines qui sont faites pour recevoir de la monnaie. Donc, cette exposition s'est construite un peu comme ça, avec l'objectif de mettre entre les mains de tous les visiteurs des jetons qui vont pouvoir être manipulés et utilisés afin de reprendre contact avec toutes ces machines de jeu de la fin du XXe siècle.
Des machines de jeu et une culture du café qui les accompagne, qui intéresse nécessairement l'historien de la jeunesse que vous êtes, Jean-Jacques Ivorel.
Oui, c'est tout à fait, parce que très tôt, l'idée que la manipulation de l'argent par les jeunes et par les enfants, notamment ceux des classes populaires, posait problème, est arrivée. Puisque dans un livre au titre très significatif, Frigier, son ouvrage s'appelle « Des classes dangereuses des grandes villes et des moyens de les rendre meilleures », pendant 4 pages, il décrit la passion des enfants des classes laborieuses, c'est son terme, hein, pour les jeux du bouchon. Le bouchon, c'est un jeu où on met en équilibre une pièce de monnaie sur un bouchon et on doit la faire tomber avec un palet. Et il explique comment cette passion des enfants les conduit à une rupture familiale, avant bien sûr de conclure ses 4 pages. Il était joueur, il devient vagabond. Et on le sait bien, hein, le vagabondage des enfants est à l'origine de tous les crimes de l'homme, comme l'écrivait Victor Hugo.
Et oui, les jeux d'argent font peur, on va y revenir. Mais d'abord, où et quand ces machines de jeux à pièces sont-elles apparues, Nicolas Galifi ?
Alors, en fait, tout a commencé dans les années 30. En fait, on a commencé à mettre des monnayeurs sur des machines de jeux qui existaient déjà à l'origine. Et dans l'exposition, on le montre bien, on a un Baffle Ball de 1931, qui est une machine qui a été produite par Gottlieb et qui, en somme toute, ressemble à un jeu de bagatelle, mais avec un lance-bille mécanique et aussi justement ce fameux monnayeur. Et c'était une invention qui était assez révolutionnaire à l'époque, dans le sens où les jeux de divertissement à monnaie n'existaient pas auparavant. On avait des jeux d'argent, on pouvait gagner de l'argent et surtout en perdre, mais on n'avait pas de jeux de divertissement à monnaie. Et ensuite, tout s'est développé assez rapidement du côté de l'Amérique du Nord, pour ensuite rejoindre évidemment l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, et les ancêtres des flippers ont connu un engouement très fort à la fin du 19e siècle. Au départ, le flipper, c'est vraiment un jeu d'argent, Jean-Jacques Ivorel.
Quand il est inventé aux États-Unis par deux ouvriers électriciens victimes de la crise de 1929, c'est un jeu d'argent. C'est-à-dire, c'est un jeu où on gagne de l'argent. Et ça provoque son interdiction dans un certain nombre d'États américains. Donc, on a l'idée de non plus gagner de l'argent, mais gagner simplement des parties gratuites du jeu. Voilà.
Vous vous ennuyez ou pas ?
Oh, beaucoup, oui. Beaucoup. On a le flipper. Hein, faut débourser, puis c'est tout. On n'a rien à faire.
Vous restez jamais avec vos parents le soir ?
Oh, c'est pas intéressant. Ça décroule. Hein.
Quelle part de l'argent que vous gagnez vous consacrez à vos loisirs ? Par exemple, toi, tu gagnes combien ?
Je gagne 10 000 francs par semaine, à peu près, 250 francs de l'heure. J'ai 500 francs tous les jours pour manger le midi et 1 000 francs le dimanche. Et c'est tout.
Bon, est-ce que tu en donnes à tes parents ?
Ah, bah oui, je donne le reste. Ça fait 3 000 francs par semaine, et le reste, c'est pour mes parents.
Bon, il te reste donc combien à peu près par semaine pour tes distractions ?
1 000 francs.
Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tu vas au cinéma ?
Oh, ils sont partis le samedi soir, le dimanche, je suis fauché.
Tu en dépenses beaucoup pour les flippers, par exemple ?
Trois quarts.
Voilà une archive de 1964 qui fait partie de l'exposition qui a lieu en ce moment à la Monnaie de Paris. Justement, comment s'organise-t-elle cette exposition ? Quelles en sont les pièces maîtresses, Nicolas Galifi ?
Quand on pénètre dans l'exposition, on entre dans une très grande salle, la salle du Pré, dans laquelle on a mis en avant quatre machines qui nous semblaient être un peu les pierres angulaires de ce qui se développe après dans le futur et les décennies suivantes. Donc on a mis en avant la machine dont je parlais tout à l'heure, un baffle ball, donc qui a une sorte de proto-flipper, pour bien montrer l'évolution de cette machine-là. On a aussi mis en avant un jukebox, qui lui est de 1948, un Miles, si je dis pas de bêtises, oui, un Miles, et qui est très joli et qui donne aussi l'esthétique de cette époque-là, et qui montre une production américaine qui a été diffusée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on a mis un babyfoot français, pour une fois une pièce française, de chez Stella, qui lui est de 1948 aussi, et qui est magnifiquement restauré, avec des couleurs flashy, jaune et rouge. Et ensuite, une dernière pièce, une des premières bornes d'arcade qui a été à destination commerciale, qui s'appelle le Computer Space de 1971. Donc on a ces quatre grandes machines et quatre thématiques qui y sont associées, des grands imaginaires qui ont été développés pour les adolescents à la sortie de la guerre, qui sont le sport, les transports, la science-fiction et la technologie. Mais aussi la musique, avec principalement les yéyés.
Oui, on parle de la jeunesse, puisque ce sont essentiellement les jeunes qui sont les clients de ces machines à pièces, ou c'est plus compliqué que cela, Jean-Jacques Ivorel ?
Non, c'est vraiment essentiellement les jeunes. Il y a peu de... On voit bien quelques adultes jouer au flipper ou dans les cafés, mais pour l'essentiel, c'est les jeunes. Qui sont les utilisateurs de ces machines.
Des jeunes qui fréquentent déjà beaucoup les cafés. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire des loisirs des jeunes dans les années 50 ?
Oui, le café fait partie des distractions des jeunes, avec le cinéma, la fête foraine, les matchs de boxe ou de football. Voilà, ça fait vraiment partie de l'univers. Il y avait un centre d'observation de l'éducation surveillée, qu'on appelle aujourd'hui protection judiciaire de la jeunesse, à Savigny, et quand les jeunes arrivaient dans ce centre d'observation, on leur faisait faire des dessins sur leurs loisirs, dans le but de les observer, bien sûr. Et donc, on retrouve dans ces dessins ces quatre grands loisirs, quoi. Le café, le cinéma, la fête foraine, et les matchs de boxe, matchs de foot, etc. Bon, ça, c'était... Et en plus, un certain nombre de cafés deviennent, quand se développera dans les années 50 les premières bandes, deviennent les lieux des bandes.
Alors on va y venir, mais d'abord, quelles sont les entreprises qui fabriquent et commercialisent les flippers, mais aussi les baby-foot qui débarquent dans les cafés en France dans les années 50, Nicolas Galifi ?
Alors principalement des fabricants américains. pour ce qui est des flippers. Donc on a évidemment les trois grandes marques qui sont Gottlieb, Bolli et Williams, après à des échelles différentes et aussi à des temporalités parfois un peu différentes les unes des autres. Mais voilà, et on a aussi une grande production locale, plutôt française, pour ce qui s'agit des baby-foot. Les baby-foot sont évidemment un jeu beaucoup plus européen et parfois aussi beaucoup plus simple à réaliser. Et on a remarqué, au gré de nos recherches évidemment, que ces baby-foot avaient des ancrages locaux très très forts, avec par exemple Stella qui était très bien implantée ici en Ile-de-France et dans le nord de la France, René Pierre qui était très bien implantée dans l'est de la France, et Bondini qui évidemment avait une très belle emprise sur l'ensemble du territoire.
Et ce sont des machines qui vont se révéler très rentables dans les cafés qui les achètent, Nicolas Galifi.
D'après nos recherches, toujours, il semblerait que dans les années 50-60, ce type de machine était plus rentable qu'une table de café, tout simplement parce que avec des parties aux alentours de 20 centimes de francs, on avait des pièces qui s'échangeaient rapidement et qui étaient rapidement insérées dans la machine, sachant qu'une partie peut durer 30 secondes parfois. Et alors qu'un café qui coûtait environ 60 centimes de francs d'après nos recherches pouvaient durer plusieurs minutes. Voilà, donc les différences pouvaient se faire comme ça. Et avec l'engouement de ces machines-là, évidemment, beaucoup de jeunes se rassemblaient dans ces cafés-là et pouvaient dépenser une certaine somme, parfois même importante, dans ces machines.
Et ils pouvaient d'autant plus dépenser, Jean-Jacques Ivorel, que la plupart des jeunes travaillent à cette époque. Il s'agit de reconstruire la France.
Alors, tout à fait. On est dans une période de plein emploi. L'archive que vous avez présentée montre un peu quel est le rapport qu'ont ces jeunes ouvriers, ces jeunes travailleurs à leur salaire. Hein. Ils donnent l'essentiel à leurs parents pour leur entretien, mais on leur en laisse, en argent de poche, si j'ose dire, une part. Et c'est l'essentiel de leur... c'est leur revenu, et c'est comme ça qu'ils payent leurs loisirs. En gros, c'est la part qui leur permet d'acheter leurs vêtements et de payer leurs loisirs et leurs déplacements. Voilà.
Justement, que représentent les loisirs dans le budget de la jeunesse, Nicolas Galifi?
Moi, je trouve ça déjà assez incroyable que ces jeunes, quand j'ai consulté l'archive, en tout cas, j'étais très étonné, partagent autant d'argent avec leurs parents. Moi, je suis un enfant des années 90 et entendre ça m'a surpris et dans le bon sens. Et je trouve aussi que ces jeunes, quand ils s'expriment devant la caméra, ils sont très, très clairs, ils ont une vision très positif de ce qu'ils font et aussi de la gestion de leur budget. Donc j'étais très impressionné par la maturité de ces enfants des années 60 qui, évidemment, expliquent que parfois il y a des temps d'ennui qui sont difficiles à combler et qu'ils le passent régulièrement autour de baby-foot et de flipper. Donc moi, j'étais fasciné par ces archives.
Et vous avez calculé avec l'INSEE ce que représentait le loisir dans le budget des jeunes dans les années 50-60, Nicolas Galifi?
Alors la part exacte, c'était difficile de le faire. Par contre, dans l'archive, on l'entend très bien, et je crois qu'il parle en ancien franc, mais c'est très clair. Par contre, dans nos salles d'exposition, on a mis en avant des vitrines dans lesquelles on a regroupé des objets contextuels de l'adolescence de chaque époque. Donc on a des revues, évidemment, de Salut les copains, on a des disques 45 tours de Sheila, ou les premiers disques de Claude François qui sont mis en exposition. On a recherché les prix d'origine pour montrer quels étaient les comparatifs à faire entre certains objets de consommation courante et aussi des parties de flipper et des consommations au café.
Ça y est, les quatre numéros du haut, nommés d'un seul coup. Mais regarde.
Regarde d'abord ce que tu fais, ton flipper. Ouais. Non, ensuite gauche.
Ah mais il ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'y peux? Madame Garotti. Votre flipper de gauche ne fonctionne pas.
Évidemment, vous jouez comme des sauvages.
Oh, je vous en prie, Madame Durand. Arthur ne sait pas jouer, c'est une affaire entendue, mais l'appareil ne s'en porte pas plus mal.
Oh, vous, avec vos raisonnements.
Bonjour, Madame Durand.
Ah, bonjour, Monsieur Fisher.
Excusez-moi d'interrompre vos ébats, mes jeunes amis, mais je dois ouvrir le ventre à cet énergumène. Travail oblige.
Ah bah, je me doutais que notre argent allait quelque part, mais je n'avais jamais encore assisté à l'opération.
Eh oui! Vous semez, je récolte.
Nous, vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous continuons notre histoire économique des machines à pièces avec Jean-Jacques Ivorel et Nicolas Galifi. C'était un extrait de Ping Pong, une pièce d'Arthur Adamov de 1955 adaptée à la télévision par Jean Prat. Alors, dans les années 50, on joue et puis on triche essentiellement pour pouvoir rejouer. Quelles sont les différentes techniques de triche, Jean-Jacques Ivorel?
Oula, moi je suis pas grand expert des technique de triche, mais les jeunes avaient des moyens pour déclencher des parties gratuites sur les flippers en bricolant par derrière, ou pour déclencher des écoutes gratuites de disques sur le jukebox. Moi, la seule triche que je connais, parce que c'est celle que j'ai pratiquée dans mon jeune temps, consistait à mettre un tissu, hein, une écharpe ou une casquette dans les cages du baby-foot. Et donc, comme ça, on récupérait un nombre infini de fois la balle qu'on avait mis dans la cage. Mais bien sûr, il y avait nécessairement une sorte de triche.
Il y a aussi la technique de la pièce trouée, Nicolas Galifi.
Exact, la pièce trouée, c'est un peu un mythe. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'avais l'impression que c'était un mythe. Et lorsqu'on a étudié l'exposition et organisé les vitrines, la Monnaie de Paris nous a mis à disposition des stocks de monnaie ancienne qui étaient répartis par décennies. Et en les triant avec le co-commissaire de l'exposition, Jean-Baptiste Claes, on a remarqué une pièce qui était vraiment très abîmée. Et en la regardant de plus près, elle était percée. Et on a récupéré un fil de pêche et effectivement, c'était bien une pièce percée et à destination des monnayeurs pour pouvoir avoir des parties gratuites en la retirant.
Vous avez essayé ?
On n'a pas essayé pour pas abîmer les monnayeurs qu'on a mis à disposition à la Monnaie de Paris, mais à la fin de l'exposition, je me ferai le petit plaisir de l'essayer, effectivement.
Et alors, vous l'avez dit, Jean-Jacques Yorel, des jeunes qui s'adonnent au plaisir du jeu dans les débits de boissons, cela inquiète. Il y a aussi cette idée, on associe aussi le jeu au plaisir sexuel. On entendait le terme débat qui était prononcé dans cet extrait qu'on a entendu, comme pour qualifier des ébats sexuels autour du jeu. Tout cela participe à donner une mauvaise image de ces machines ?
Oui, le flipper, par exemple, on ne manque pas de remarquer que quand on fait une partie de flipper, on mime, on n'est pas loin de mimer un rapport sexuel. Ajoutons que le décor de certains flippers est assez sensuel. Ça fait des choses.
Il y a un flipper playboy dans l'exposition de la Monnaie.
Exact. En fait, ce qui est rigolo dans l'exposition, sachant qu'elle est chronologique, c'est qu'on voit que les premières thématiques abordées par les flippers et par toutes les machines qu'on présente sont généralement un peu timides, pour des milliers de raisons, mais elles sont timides. Et au fur et à mesure des décennies, les fabricants s'intéressent de façon beaucoup plus ténue aux intérêts de la jeunesse, en présentant des choses qui peuvent choquer parfois certains adultes, mais qui intéressent évidemment les jeunes.
Donc il y a une crainte que ces machines dépravent la jeunesse, Jean-Jacques Yorel.
Tout à fait. Faut distinguer les machines, parce que si le flipper déprave, si le jukebox détrave par la musique qu'on y écoute, j'en dirai un mot tout à l'heure, le baby-foot, lui, est récupérable, socialement récupérable. On va installer des baby-foot dans tous les établissements de l'éducation surveillée, un baby-foot, dans les locaux des premiers clubs de prévention, on va mettre des baby-foot, dans les MJC, il y a des baby-foot, mais il n'y a pas de flipper. Le baby-foot est donc... essayer de fédérer ce lieu en créant une fédération du football de table avec des championnats qui ont toujours lieu, hein, y compris des championnats régionaux, après des Coupes du Monde, etc. Bon, donc, le baby-foot serait récupérable, mais pas le flipper. Et le jukebox, c'est autre chose, c'est le type de musique qu'on y joue.
Qu'est-ce qu'on reproche au rock, Jean-Jacques Yborel ?
En 1962, hein, vous avez un rapport qui est fait par un monsieur qui s'appelle Maurice Audin, qui est un inspecteur d'académie. On lui demande un rapport sur les formes nouvelles de délinquance juvénile. Et alors, il met en cause toutes sortes de... Il parle bien sûr d'une explosion de la délinquance juvénile. Il met en cause toutes sortes de raisons, y compris notamment le fait que désormais les mères de famille travaillent. Hein, ça, c'est une cause fondamentale de délinquance juvénile. Mais il attribue aussi la délinquance à une musique... une musique qu'il qualifie, hein, il dit une musique composée à coups de cymbales, de miaulements hystériques et de rythmes syncopés. Hein, voilà. Alors il ne savait pas, ce brave monsieur, que presque un demi-siècle avant, le marquis d'Haussonville, dans un ouvrage sur les problèmes de la prostitution, faisait de la musique populaire une cause de perdition des jeunes filles. Française.
Mais vous avez prononcé le mot-clé, c'est essentiellement parce que ce sont des loisirs, des classes populaires et des classes moyennes qu'ils sont ainsi critiqués, Jean-Jacques Yvorel ?
Oui, d'une façon générale, quand les loisirs des classes populaires sont généralement disqualifiés, présentés comme nocifs, etc., même si après, historiquement, ils deviennent des loisirs des classes cultivées. Mmh. Et si les films qui ont été présentés, notamment la trilogie de John Dim, qui ont été présentés comme cause de la délinquance juvénile, sont quelques années plus tard projetés dans les ciné-clubs avec analyse de professeurs d'université.
Ces jeux font peur et pour mieux contrôler la jeunesse, les MJC, les maisons des jeunes et de la culture, cherchent à concurrencer les cafés.
L'oisiveté est mauvaise conseillère. Faute de but plus précis à l'heure des loisirs, elle conduit trop facilement autour d'une table de café. Ainsi, une certaine jeunesse, sans s'en rendre compte, s'habitue à faire bon ménage avec l'alcool, dont on ne dira jamais assez qu'il est un fléau national. C'est pourquoi il faut applaudir à des initiatives telles que celle qui a abouti à la création à Vincennes de la Maison des Jeunes et de la Culture. Qu'ils sortent du collège ou de l'atelier, elle leur offre à travers les divers clubs de multiples moyens de meubler leurs loisirs. La Maison des Jeunes a son restaurant. Elle a aussi son bar, et garçons et filles y prouvent qu'il n'est nullement nécessaire de s'alcooliser ou de rouler à 200 à l'heure pour satisfaire à sa petite fureur de vivre. Il existe heureusement d'autres chemins pour aller au-devant de la vie.
Voilà une archive des actualités françaises de 1961. Ce que l'on reproche à ces machines automatiques à pièces, c'est surtout d'être addictives et de rendre oisifs dans une société qui valorise énormément le travail. Nous sommes pendant les Trente Glorieuses, dans une période de forte croissance économique. L'oisiveté apparaît comme le pire fléau, Jean-Jacques Ivorel.
L'oisiveté est considérée comme un fléau, mais ces jeunes ne sont pas oisifs. Ils travaillent. Mmh. D'ailleurs, quand on étudie tous les travaux que faisait l'éducation surveillée avec son centre de recherche de Vaucresson sur la délinquance, montre que, par exemple, il y a une temporalité de la délinquance et qu'on délinque beaucoup plus le samedi que les autres jours de la semaine, tout simplement parce que les autres jours de la semaine, on est au travail.
Mais il faut rappeler le contexte de l'époque, vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure, Jean-Jacques Ivorel, les années 40 et 50, c'est la grande période du phénomène des bandes et de la peur de la délinquance juvénile. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire?
Alors, le phénomène des bandes est un phénomène...
plus ancien que cela, bien sûr, mais qui revient dans l'actualité.
Plus ancien, mais qui tout simplement... qui, sociologiquement, c'est quelque chose de permanent, mais médiatiquement... c'est par éclipse. Il y a toujours des bandes de jeunes, avec des guillemets, mais il y a toujours des jeunes qui se réunissent, on pourra discuter de ce que c'est qu'une bande de jeunes, mais il y a des moments où on les voit, et il y a des moments où on ne les voit pas.
Par exemple les Apaches, au début du siècle.
Au début du siècle. Les J3 à la Libération.
Alors, faut nous expliquer ce que sont
les
J3.
Les J3, leur nom vient des cartes de rationnement. Il y avait les cartes de rationnement pour tous les âges de la vie, et puis il y en avait pour les jeunes, donc il y avait pour les J1 pour les plus petits, après il y avait les J2, puis après il y avait les adolescents. Donc
les 15-20 ans avaient des J3.
C'était les J3. Mmh. Voilà. Donc il y a les J3, puis bon, comment plus après un pic de délinquance à la Libération, après ça descend très vite, il y a une période où il n'y a plus de. On ne voit plus les bandes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes qui se réunissent et qui... et puis, on va les revoir avec le phénomène des blousons noirs.
Là, cette fois, on est à la fin des années 50.
À la fin des années 50. C'est très datable, hein, deux événements, une bagarre entre bandes au Square Saint-Lambert et une bagarre entre bandes à Bandol, tombant en plus les mêmes jours, en plein vide médiatique du mois d'août. Et voilà, les blousons noirs sont nés.
Hein. Sachant qu'on les appelle les blousons noirs, enfin ce sont les journaux qui les appellent comme ça. Comment est-ce qu'on peut les définir, ces blousons noirs, Jean-Jacques Ivorel?
Ce sont des... ces bandes de jeunes, ce sont des jeunes, donc je vous dis généralement, qui travaillent, hein, et qui se réunissent avant tout pour leurs loisirs. Hein. Ces loisirs incorporent parfois un certain nombre d'actes transgressifs. Des fois graves d'ailleurs, hein, comme des viols collectifs par exemple. Mais les grands, à cette époque, les grands, délits commis par ces jeunes, c'est les bagarres entre bandes. Bon, pas très grave en général. Enfin bon, il y a eu très peu de victimes. Hein. C'est bien moins important que les bagarres entre villages du 19e siècle, où là, il y avait des morts. Là, il n'y en a pas, hein, ou très peu. Hein. Et des bagarres entre bandes et des vols, avec deux objets emblématiques. Hein. Le vol des véhicules à moteur, donc des voitures, des scooters, des motos, et les vols des disques.
Et est-ce qu'on peut dire que justement cette culture du café, cet essor des machines à pièces, tout cela réactive en quelque sorte cette peur des bandes de jeunes, Jean-Jacques Ivorel ? Ou en tout cas, il y a ce discours ambiant selon lequel ces machines entraîneraient l'émergence de davantage de jeunes délinquants ?
Disons que la sociabilité de café est totalement reliée à l'existence de ces bandes. Voilà. Toute bande doit avoir son café. La première bande qui est étudiée, elle est étudiée par un éducateur. Hein. La presse, d'ailleurs, c'est avant les blousons noirs. Et la presse les appelle les blousons marrons, parce qu'ils ont des blousons en... Quelques-uns ont des blousons en daim. Donc c'est une des premières bandes qui est étudiée. Et elle a un café. Et c'est chez Gilbert. Hein, donc ils ont un café, plus un local, qui est un ancien abri aérien, un anti-aérien désaffecté qu'ils occupent. Mais la bande a son café. Donc ça fait partie de la mythologie de la bande. Le café auquel on écoute de la musique et on joue au flipper. Voilà, ça fait partie de la mythologie de la bande.
Cette question de la délinquance juvénile apparaît dans l'exposition, Nicolas Galifi.
Ah oui, en partie. En fait, ce qu'on a remarqué, évidemment, c'est que les cafés, les bistrots, ce sont des lieux de sociabilité principalement à l'époque masculine. Et donc, voilà pourquoi les bandes se réunissent là-bas. Et ces objets qui sont présents dans les cafés cristallisent les enjeux de ces jeunes. On parlait aussi voilà, des transports, on parlait aussi des mobilettes, des autos et des disques. Toutes ces préoccupations sont autour de ces jeux et cristallisent l'ensemble des loisirs de ces jeunes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les blousons noirs, outre les crimes dont on a parlé, ou les bagarres dont on a parlé, qui sont relativement graves, je crois que la presse a commencé à s'y intéresser encore plus et à prendre peur de façon généralisée lorsque les jeunes, de façon très classique, qui se rendaient à des concerts de yéyé ou de choses comme ça, commençaient à s'adonner à des mouvements de foule ou à des petits délits qui peuvent être relativement graves et qui étaient relatés de façon systématique dans la presse. On a des exemples très 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 importants sur un concert de Johnny Hallyday qui se termine en petites émeutes, voilà, au cirque d'hiver, si je dis pas de bêtises, en 1960, et qui a fait les gros titres de toute la presse et a inquiété l'ensemble des politiques et de la presse de l'époque.
La tirelire sur un flip, il faut amortir. Mais pour ça, il faut pas être un débutant. Non mais regardez-moi cette case, un coup de flip super efficace. Je prends au passage une petite cible à 500. Je marque le grain tout en finesse. Je jongle, je fais des prouesses. Car je suis l'empereur du flipper. Mais pour voir clair dans mon jeu, on est si fort que je mette le feu et appeler le compteur à coup de bumper. J'improvise un coup de fourchette pour éviter les oubliettes. J'suis pas passé loin du trou, j'ai pas eu peur. J'organise une belle remontée. Je me permets même de viser. Car j'suis l'empereur du flipper. J'ai la frite et je mets la patate. Il y a vraiment que là-dessus que je m'éclate. Car je suis l'empereur du flipper. Je bloque tout droit et je passe à gauche. Je flippe, mais tiens, voilà autre chose. Un spécial tout rouge qui vient de s'allumer. J'engage l'hélico, la baleine se couvre. À latéral, c'est pas tout, mais y'a un bonus à faire grimper. J'attaque la boule finale en l'opinion. En diagonale, faut assurer parce que c'est presque du tout cuit. C'est le réel, la mise à mort, j'enclate dedans. Le spin rotor se brûle, les gars, je vous le dis, ça n'a pas de prix. Je mérite toujours ma partie. Je compte jamais sur la loterie. Car je suis l'empereur du flipper.
dire, reste invaincu. On m'appelle Target Value. Car je suis l'empereur du flipper.
L'empereur du flipper, une chanson de Richard Gottener de 1977. Vous écoutez France Culture, entendez-vous de l'écho? Flipper, jukebox et babyfoot, les jeux de l'argent et de la jeunesse, c'est notre sujet aujourd'hui. Jean-Jacques Ivorel et Nicolas Galifi sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et Sam Bakiast, avec l'aide d'Inès Barja et mise en onde aujourd'hui par Sébastien Royer. Alors dans les années 50 et 60, dans la France des 30 glorieuses, les jeux à pièces connaissent un grand succès. C'est une époque, Jean-Jacques Ivorel, pendant laquelle la jeunesse se constitue véritablement comme un groupe social à part entière.
Oh, la jeunesse, c'est pas un groupe social, mais c'est au moins ça devient une cible marketing. Au groupe social, c'est ce qu'on veut faire croire, peut-être, mais il y a toujours une énorme différence. Enfin, la jeunesse est traversée par les problèmes de classe, par les problèmes d'origine, par
mais la publicité voudrait abolir justement ces distinctions sociales.
Donc voilà, on pensait que bon, mais c'est un peu une illusoire. Hein. Il y a toujours de fortes différences, mais il y a l'idée que, en effet, la jeunesse pourrait être qui a un pouvoir d'achat qui augmente, parce que bon. D'abord parce que, d'une façon générale, le pouvoir d'achat augmente. Il y a un enrichissement indiscutable des personnes. On le voit très très bien comment, je sais pas, dans les années 50, j'ai collectionné à un moment la lecture des souvenirs d'ouvriers. Ils vous expliquent qu'ils ont bu une fois du champagne dans leur existence. Mm. Bon, voilà, c'est et de façon tout à fait exceptionnelle. Donc, aujourd'hui, l'ouvrier peut s'offrir une bouteille de champagne, c'est pas bon.
Et le fait est que, même si évidemment ces inégalités sociales ne disparaissent pas, elles régressent pendant cette période, Jean-Jacques Ivorel.
Elles régressent et la consommation augmente considérablement et donc les industriels, les gens du marketing ont l'idée de construire une consommation jeune. Enfin, on construit, il suffit de regarder les publicités, hein. Il y a celle pour la ménagère de 30 ans, il y a celle pour, et il y a celle pour les jeunes. Donc, on va essayer de développer une culture jeune autour de la musique, du vêtement, des loisirs, qui seraient ceux, par essence, des jeunes.
Mais justement, est-ce que le marketing crée, invente une mode jeune ou est-ce qu'il répond à des aspirations, des désirs qui sont ceux de la jeunesse à ce moment-là, Jean-Jacques Ivorel ?
C'est toujours un peu les deux. Mmh. Hein, c'est un rapport dialectique. La publicité ne crée pas de toute pièce un désir ou une mode, mais elle repère des éléments d'une mode, elle la renforce, du coup la mode se renforce. Enfin bon, on a dans un petit jeu dialectique permanent. Où il est très difficile de savoir qui est l'œuf, qui est la poule.
Mais désormais, la tranche d'âge détermine des pratiques culturelles et des choix vestimentaires, alors qu'auparavant, c'était davantage la classe sociale qui déterminait cela, Jean-Jacques Ivorel. C'est en cela qu'il y a peut-être un tournant à cette période?
Oui, c'est-à-dire que la tranche d'âge joue un rôle grandissant dans les choix de loisirs et culturels. Bon, ça, c'est certain. Il y a quelque chose d'amusant à voir. Hein. Jusqu'en 68, par exemple, Mutatis Mutandis, les jeunes étaient habillés comme leurs parents. Allez voir Copains d'avant. Vous savez, vous regardez Copains d'avant, il y a plein de photos de classe. Vous regardez les vieilles photos de classe. Vous regardez les informations de mai 68, où les étudiants lancent des pavés en costume cravate. Parce qu'ils sont habillés comme papa qui a un costume cravate.
Et tout d'un coup, il y a un vêtement jeune
et voilà. Et si vous regardez une photo de classe d'aujourd'hui, maintenant c'est plutôt l'inverse. C'est quelques personnes qui sont plus vraiment jeunes qui essayent de s'habiller comme les jeunes.
Et cette jeunesse se réunit donc dans les cafés, on l'a dit. Ce sont des lieux de sociabilité. Ce sont aussi des lieux de politisation, Jean-Jacques Ivorel.
Alors, Ça dépend des périodes.
Si on se situe encore dans les années 50-60.
C'est des jeux de politisation plutôt pour les adultes que pour les jeunes. Mmh. Hein, les jeunes... alors, c'est compliqué, parce que sont-ils ou ne sont-ils pas politisés ? C'est très compliqué. En 67, il y a un immense rapport sur l'état de la jeunesse, rapport Missoff, 270 pages, hein, où on nous explique que les jeunes sont totalement dépolitisés, qu'ils ne s'intéressent absolument pas à la politique. Le rapport est publié en décembre 67. Décembre 67.
Quelques mois avant.
22 mars 68. On voit que l'écart est pas très grand et brutalement, on s'aperçoit que...
Un tout petit peu plus politisé à ce moment-là. Hein? Un tout petit peu plus politisé à ce moment-là.
Voilà. Il y a eu une sorte de brutale politisation.
C'est ça. Extrêmement rapide.
Il serait survenu comme ça dans une nuit. La nuit, il y aurait porté conseil et il serait politisé. Donc c'est très difficile. Est-ce que c'est lié... Ces cafés sont... Ils ne sont pas vus comme tels. Mmh. En tout cas, ils sont pas... contrairement à ce qu'ils ont pu être vus avant. C'est-à-dire, avant, que ce soit pendant l'entre-deux-guerres où il y a les cafés de l'Action française, hein, vus comme lieu de politisation, et avant, des cafés vus comme lieu de politisation des ouvriers.
Je crois que c'était un peu Nicolas la crainte, Galifi. En fait, pardon, excusez-moi, mais je crois que c'était un peu la crainte, justement, des autorités et des adultes de l'époque de voir les adolescents se réunir et se politiser dans les cafés sans avoir de moyens de les réorienter ou en tout cas de les contrôler. Et c'est ça qui a fait peur à aussi beaucoup d'adultes de l'époque.
Une jeunesse qui a donc un pouvoir d'achat de plus en plus important, et cela attire évidemment la convoitise des patrons de bars, des fabricants de flippers. Ces derniers vont se lancer dans les années 60 dans une course à l'innovation, Nicolas Galifi, justement, pour attirer toujours davantage de jeunes.
Il le faut, les machines, en fait, elles fonctionnent par elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont bruyantes, elles sont lumineuses, et si elles ne le sont pas, elles ne sont pas utilisées comme il faut, en tout cas pas assez pour les fabricants, les distributeurs et aussi les cafetiers qui récupèrent de l'argent sur ces machines. Donc évidemment, on propose des machines, on les adapte à la mode et on fait en sorte qu'elles soient le plus utilisées possible. À cette période-là, dans les années 60, et surtout vers la fin, on commence à voir apparaître dans les studios et surtout dans les laboratoires scientifiques américains les premiers jeux vidéo, donc qui sont très très fermés et qui n'ont pas beaucoup d'aura médiatique, mais certaines personnes un peu visionnaires adaptent ces jeux vidéo rapidement sur des bornes publiques et ça va aussi pousser l'ensemble de l'industrie de l'automatique à se renouveler pour s'adapter aux nouvelles technologies qui émergent à la toute fin des années 60.
France Culture.
Eh oui, il y en a qui aiment les toiles de maître, d'autres qui collectionnent les vieilles pendules. Moi, ce qui me fait planer, c'est les flippers. Regardez toutes ces petites lumières qui clignotent.
Entendez-vous l'écho ?
Et le bruit de la bille. On dirait du Mozart.
Tiphaine de Roquigny.
Nous poursuivons notre histoire économique des loisirs de la jeunesse entre flippers, jeux d'arcade et jukebox. Des jeux d'arcade, justement, qui vont apparaître dans les années 70. Ça, c'est un grand bouleversement pour ce marché des jeux à pièces. Le fait que l'électronique et le jeu vidéo émergent. Comment est-ce que cela se passe, Nicolas Galifi? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette décennie 70 à ce sujet?
C'est très progressif, en fait. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, les machines sont plutôt... réservé aux scientifiques au départ, avec Space War du MIT en 1962. Et puis, à partir de 1971, on a les premières machines qui sont placées dans des lieux publics à destination commerciale, comme le Computer Space, qui est présent dans l'exposition. Et très, très rapidement, les mêmes créateurs lancent Atari et le fameux Pong, qui lui sort en 72-73 aux États-Unis. Et là, c'est la révolution qui commence. Alors, en France, on a très peu de machines Pong qui arrivent jusqu'à nous parce que la distribution est difficile. Mais beaucoup de fabricants locaux copient ou en tout cas adaptent la technologie pour la proposer très rapidement dans ces cafés, dans ces bistrots.
Et puis, il y a Space Invader qui sort en 1978, exact. Qui connaît un énorme succès. Ce sont des jeux qui rapportent beaucoup d'argent, Nicolas Galifi. suffit ?
Alors, Space Invaders, c'est un énorme succès, aussi présent dans l'exposition, et le succès est tel qu'au Japon, quand il a été lancé, on a eu une pénurie de pièces de 100 yens qui a poussé la banque centrale japonaise à rééditer des pièces en urgence parce qu'elles étaient toutes coincées dans les monnayeurs, ce qui est assez exceptionnel. Et les médias internationaux en ont fait l'écho à leur façon, évidemment, de façon assez critique et avec le vocabulaire dont on a parlé tout à l'heure.
Et désormais, on ne joue plus seulement dans les cafés, mais également dans des salles dédiées, les salles d'arcade.
Exact. En France, c'était plutôt des kermesses qui ont évolué dans des salles de jeux, puis des salles d'arcade. Donc tout s'est fait de façon très chronologique et a mis un peu de temps. Mais oui, c'est lié à cette industrie de l'automatique et à l'art forain.
Et alors ça inquiète, j'imagine, les fabricants de flippers. Ils essayent de contre-attaquer en justement peut-être en s'appropriant toujours plus les imaginaires de la culture populaire.
Alors oui, on voit beaucoup de choses qui se passent chez les flippers à cette période-là. À partir de 1976, on voit apparaître des petites cartes électroniques qui sont adaptées sur les flippers, à la fois pour les rendre plus attrayants, mais aussi pour les rendre plus proches d'une expérience de jeu vidéo, dans le sens où les scores deviennent numériques très rapidement et instantanés. Donc en fait, on touche une des cibles et les points se comptent tout de suite. Les sons sont aussi numérisés, ce qui fait qu'un flipper de la fin des années 70, début des années 80, fait un son très très proche d'une bande d'arcade, tout simplement pour coller aux modes et aux exigences des nouveaux joueurs.
Donc ils sont moins techniques, les flippers, évidemment, que les jeux vidéo, mais par contre, ils sont de plus en plus beaux.
De plus en plus beaux, de plus en plus attrayants, et les expériences de jeu sont vraiment totales. Plus on avance dans l'histoire du flipper, plus on a de sons, de voix qui sont enregistrées, de petits écrans qui donnent des missions, vraiment des choses très perfectionnées, parfois même avec plusieurs niveaux, plusieurs batteurs, qui rendent le jeu très intéressant, au même titre que ceux des jeux vidéo.
Et il faut toujours innover du côté des flippers, mais aussi du côté des bornes d'arcade, puisque va survenir une autre concurrence, celle de la console de salon, Nicolas Galifi.
Ah oui, l'histoire de la console de salon, elle est très ancienne en fait. Quand Pong a été lancé, il y a eu beaucoup de clones donc en bande d'arcade, mais aussi en console de salon, ce qui a poussé les industriels à proposer des machines qui étaient très perfectionnées de plus en plus, avec évidemment l'avènement du 8 bits et beaucoup de jeux qui existent encore aujourd'hui sous différentes versions. Je peux parler de Frogger par exemple, qui est un jeu qui est très connu, mais aussi Arkanoid, tous les casse-briques ont été repris et adaptés sur énormément de supports. Et ça s'est passé à la toute fin des années 70, au début des années 80. Et évidemment, des jeux mythiques comme Pac-Man, qui a été lancé en France au tout début des années 80 et qui connaît même ses premiers championnats en 82. On a une très bonne archive qui parle de tout ça avec le champion de France, qui est aussi vice-champion du monde de Pac-Man.
Et bien justement, je vous propose de l'écouter.
Bon, vous êtes jeune, vous êtes bien portant, vous avez l'air sensé, relativement intelligent, et vous jouez à des jeux que d'aucuns qualifieront de stupides. Pourquoi ?
Pourquoi ? Pour me divertir, hein. On s'est présenté à la foire, où on m'a tout de suite sélectionné pour le championnat de France. C'est ça le problème.
Vous avez gagné le championnat de France, vous êtes présenté au championnat du monde, vous avez terminé deuxième, vous faites plus que ça.
Pour gagner, ça nécessite une certaine intelligence, hein. Alors, faut trouver le truc, hein. Faut trouver la combine, disons la combine de l'ordinateur, la combine du programme, pour passer les obstacles le plus facilement.
Voilà le vice-champion du monde de Pac-Man, Gérard Kiefer, dans une archive de 1982. On l'entend, ces jeux suscitent beaucoup de dédain. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Jacques Ivorel ?
À part que ce genre de jeu, enfin, au fur et à mesure de leur invention, a toujours suscité un certain nombre de dédains. Donc, je vois pas pourquoi.
Ils ont mis du temps à trouver une légitimité.
Je vois pas pourquoi ceux-là auraient échappé à cette règle du dédain de ces nouveaux jeux, hein, parce que bon.
Alors même qu'ils s'imposent de plus en plus, qu'ils sont pratiqués par toujours plus de jeunes, c'est assez intriguant quand on sait aujourd'hui la place qu'a dans l'industrie du divertissement les jeux vidéo, d'entendre ainsi cette forme de mépris pour ces jeux-là, Nicolas Galifi.
Je crois que ce type de biais est assez courant, c'est-à-dire que quand une partie de la population, et particulièrement la jeunesse, s'approprie des nouveaux loisirs. On a une autre partie de la population, généralement un peu plus âgée, qui a du mal à s'adapter et qui a peut-être sans sa propre image qui est renvoyée là-dedans et qui dénigre en partie les nouveaux loisirs, leur trouvant tous les défauts du monde. Et finalement, avec le temps, tout le monde s'y fait et c'est des courants qui deviennent très mainstream. Ce qu'on voit aussi à partir des années 90 dans la publicité, par exemple, qui s'inspire beaucoup de tout cet univers flipper, bande d'arcade et babyfoot pour vendre des produits.
Jean-Jacques Borel.
De fait, les jeunes ayant une tendance absolument universelle, c'est de vieillir. Au bout d'un moment, ils cessent d'être jeunes, mais ils cessent pas nécessairement de jouer avec ces jeux. Et on le voit très très bien aujourd'hui. Je veux dire, les joueurs de jeux de console sont plus dans la tranche des 30-40 que dans la tranche des 15-20.
C'est vrai.
Et ce qui explique pourquoi cette industrie est aussi rentable aussi, qu'elle s'adresse. Voilà. Une clientèle qui a un fort pouvoir d'achat.
Voilà.
Justement, on le disait, les jeunes sont devenus une cible pour la publicité dans les années 50-60, à mesure que leur pouvoir d'achat augmentait. Mais ce pouvoir d'achat, justement, il va commencer à reculer dans le contexte du choc pétrolier de 1973, de l'inflation. Jean-Jacques Ivorel, ça va prendre un petit peu de temps, mais avec la montée du chômage, on va voir un budget consacré aux loisirs peut-être diminuer à partir des années 80.
Tout au moins, le budget des jeunes des classes populaires, oui, va diminuer. Et surtout...
Oui, c'est très inégalitaire. Le budget des jeunes des classes aisées, en revanche, a tendance à augmenter.
A tendance, oui, à augmenter. Donc, il y a une inégalité qui se renforce. À partir de la fin des années 80, les inégalités qui, pendant toutes les Trente Glorieuses, avaient tendance à se contracter un peu, face à une politique très néolibérale, consistant en gros à faire en sorte que les riches le payent de moins en moins d'impôts, qu'il y ait de moins en moins de redistribution, les écarts, on le sait, ont réaugmenté de façon tout à fait importante. Et donc, tout un tas de jeunes vont... D'autant que, comme je l'ai dit, comment ils se procuraient de l'argent? Par le travail. Et quand il n'y a plus de travail... ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à se procurer de l'argent.
Ça va être l'essor, en effet, du chômage de masse. Nicolas Galifi, sur la crise économique des années 70 et son impact sur le budget des jeunes consacrés aux loisirs.
En sachant aussi que les parties de flipper vont augmenter au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que dans les années 60-68, une partie de flipper pouvait représenter un coût aux environs de 20 centimes de francs, ce qui fait 27 centimes d'euros, inflation comprise environ, d'après nos recherches en tout cas. Et vers 1978, c'est l'équivalent de 59 centimes d'euros. Et dans les années 1998, c'est l'équivalent d'1,10 €. Donc on est vraiment sur des prix qui augmentent fortement.
France Culture, entendez-vous l'écho? Tiphaine de Roquigny.
Nous continuons à parler des machines de jeu à pièces de monnaie en compagnie de Nicolas Galifi et de Jean-Jacques Ivorel. Alors ces machines de jeu qui arrivent en France dans les années 70-80 viennent principalement des États-Unis et du Japon, Nicolas Galifi, et elles sont parfois copiées, imitées.
Elles sont parfois copiées, imitées, déjà pour des questions d'approvisionnement. C'était pas toujours facile d'avoir des machines neuves et qui attiraient le jeune public. Donc des entreprises locales s'occupent de faire ça très bien et parfois de façon un peu pirate. Mais tout ça se stabilise au début des années 80.
Oui, il y a des procès pour contrefaçon dans les années 70.
Il y a quelques procès, quelques petits déboires judiciaires. Mais en tout cas, tout est rentré dans l'ordre à partir du début des années 80. Et ensuite, par contre, on a un effondrement du nombre de café qui va pas aider forcément le développement de ces machines au milieu des années 80 et un petit renouveau à partir des années 90 suite à l'avènement de la salle d'arcade qui, elle, prend de l'essor à partir de cette époque-là.
Et puis on disait que les flippers tentaient de se réinventer justement pour concurrencer notamment à la fois les bornes d'arcade mais aussi l'essor de la console. En revanche, les baby-foot, eux, ont peu évolué, Nicolas Galifi, au cours de l'histoire.
Je crois que la forme... La forme presque parfaite, ou en tout cas idéale, d'un baby-foot s'est cristallisé aux alentours des années 60. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les baby-foot qui sont encore produits et qui sont vendus dans le commerce à des fins privées ont exactement la même forme que ceux qui ont été créés dans les années 60. C'est le cas, par exemple, du Bondini B90 actuel, qui est un B60, mais sans monnayeur. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant, une si belle longévité. C'est aussi le cas chez René Pierre, leur modèle de compétition est extrêmement similaire encore aujourd'hui. Voilà, c'est la forme parfaite qui a été définie à ce moment-là et qui aussi rappelle énormément de souvenirs à tous les joueurs qui ont pu les pratiquer dans les cafés et qui les ont aujourd'hui chez eux.
Et nous évoquions tout à l'heure cet imaginaire du café et des jeux d'argent qui dépravent la jeunesse, qui les fait basculer dans la délinquance. À partir des années 80, Jean-Jacques Ivorel, ce ne sont plus les bandes de jeunes justement traînant dans les cafés qui inquiètent, mais ceux qui sont désignés comme les jeunes de banlieue désormais.
Oui, alors là, il y a en effet une nouvelle vision de la dangerosité juvénile et qui se concentre sur le jeune des cités, qui est construit comme un archétype. Il a sa tenue, son comportement, etc.
Et cela au lendemain des premiers soulèvements populaires à la cité des Minguettes, près de Lyon, dans les années 80.
Oui, il y en a eu même quelques-uns avant les Minguettes. On pourra refaire une histoire de ces émeutes populaires. Surtout après, on va dire, l'échec de ce qu'on a appelé la marche des beurs. L'échec dans la mesure où, à ce moment-là, la demande, elle n'était pas de faire sécession, d'être à part, elle était d'être intégrée. Hein, et on leur a dit « oui, mais plus tard, on verra ». Et ça a été un moment important de la mise à l'écart des populations des cités, d'autant que les populations des cités ont évolué. C'est-à-dire que elles étaient beaucoup plus mixtes socialement qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Et on assiste en même temps qu'à un recloisonnement des classes sociales, à un recloisonnement des loisirs, Jean-Jacques Ivorel, selon les classes sociales, justement.
Oui, bien sûr. Bien sûr, il va y avoir... Entre-temps, le café a un peu disparu. Hein. Je ne sais plus combien de cafés ont fermé, j'ai oublié de regarder, mais ça...
On passe de 388 000 cafés en 1981 à 250 000 en 1985.
100 000 cafés qui disparaissent. Voilà. Cette sociabilité du café diminue. Se transforme aussi, c'est un autre type de sociabilité. On passe y boire un café, quoi. Et puis il n'y a plus cette sociabilité du café qui existait, notamment jeune. Moi, je suis passé l'autre fois à côté du café de mon lycée, parce qu'il y avait aussi les cafés lycéens.
Bien sûr.
Il n'existe plus. Il a fermé. Voilà. Il n'y a plus de café de lycée.
Voilà, je n'ai pas pu résister à vous faire entendre la chanson de Corinne Charby de 1986. Un dernier mot, Jean-Jacques Ivorel, sur cette histoire économique et sociale des jeux à pièces que nous avons retracés tout au long de cette émission.
je pense qu'il faut l'intégrer dans une histoire plus large des loisirs, de la jeunesse et de l'évolution sociologique de la jeunesse, mais c'en est un marqueur, un élément tout à fait important qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte, d'autant que c'est aussi un secteur économique. Et ça, c'est très très important aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que ça a quand même généré énormément de profits et d'argent.
Pour les industriels et pour les patrons.
Pour les industriels, pour les ceux qui mettaient à disposition ces
machines.
Appareils. On l'a entendu dans une archive, c'est même, il y a les gens qui viennent les réparer, qui viennent les entretenir. Enfin bon, c'est une industrie, quoi. C'est une industrie.
Nicolas Galifi.
Oui, c'est... C'est impressionnant, à travers nos discussions, mais aussi à travers toutes les recherches qu'on a fait dans l'exposition, de voir la place centrale qu'a pu avoir ce type de machine. Et ce qu'on a essayé de reconstruire, nous, dans cette exposition, c'est justement mettre des machines à disposition des visiteurs, et c'était l'objectif principal, mais aussi les mettre en contexte pour montrer aussi dans quel type d'environnement elles étaient placées et comment les interactions pouvaient se faire, qu'elles soient à l'époque de façon... un petit peu généralisé autour de l'adolescent, mais aujourd'hui de façon transgénérationnelle, parce que nos visiteurs ont tous les âges et peuvent partager une partie de Flipper, apprendre à jouer à une certaine machine, ou en découvrir une tout simplement.
Et oui, que ce soit par nostalgie ou par curiosité pour des machines que l'on ne connaîtrait pas, il faut aller voir cette exposition donc, qui se tient à la Monnaie de Paris du 1er mars au 30 juin, exposition qui est en partenariat avec France Culture et qui s'appelle Insert Coin, Flipper, Borne d'arcade et jeu à pièces, et dont vous êtes commissaire Nicolas Galifi et Jean-Jacques Ivorel. Je rappelle que vous êtes historien, enseignant, chercheur émérite à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, directeur de la revue Histoire de l'enfance irrégulière. Un immense merci à tous les deux de nous avoir ainsi accompagnés tout au long de cette émission. Un grand, grand merci à tous les deux. I would give all for the days memories were made. I'm a little bit ashamed. I won't live for you. Now my pillow calls your name from the middle of the night through the day. I would give all. Don't wait around for me. Fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est Far Away, un nouveau morceau de la britannique Little Sims, extrait de son nouvel EP Drop 7. Demain, nous reviendrons sur le marché des paris sportifs avec Pierre Rondeau, Isabelle Falk et Marie Trépeuge. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.